Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur CNews en direct dans Ça se dispute. Dans quelques instants, je vous présente mes invités autour de la table pour cette émission ce soir. Mais il est bientôt 20h, l'heure eh bien, du rappel de l'actu avec Isabelle Piboulot.
Une coupure totale du gaz russe en Europe, c'est ce que craint le ministre de l'économie en raison de la guerre en Ukraine. Lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Bruno Le Maire a insisté « Nous devons accélérer notre indépendance énergétique avant l'hiver ». Pour l'heure, afin d'éviter des pénuries, le gouvernement a demandé le remplissage à près de 100% des capacités de stockage de gaz national d'ici au début de l'automne. En Ukraine, une frappe sur un immeuble a fait au moins 15 morts à l'est du pays. Un missile russe a atteint la petite ville de Tchassiviar dans la nuit. Le bâtiment de 4 étages s'est partiellement effondré. Selon les secours, au moins 24 personnes sont encore sous les décombres, dont un enfant. 5 autres ont été sauvés des gravats. Et enfin, un mot de tennis. Il reste intouchable. Novak Djokovic remporte son 7e tournoi de Wimbledon. Une finale où le Serbe n'a pas tremblé face à l'Australien Nick Kyrgios, battu en 4-7. À 35 ans, Novak Djokovic décroche ainsi son 21e titre du Grand Chelem.
Merci Isabelle Piboulot. On vous retrouve dans une demi-heure. Bravo à Novak Djokovic. Vous avez regardé le match, Julien Drey ?
Non.
Vous n'êtes pas très tennis ?
Non, je regardais autre chose.
Très bien. Julien Drey, donc vous êtes notre invité ce soir, fondateur du mouvement Réinventer. Merci d'être avec nous ce soir. Gabrielle Cluzel, bonsoir. Vous êtes également notre invité, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. On va évoquer dans cette émission, dans cette première partie en tout cas, eh bien, le concours des enseignants. Certains candidats pointent des questions pièges, en tout cas qu'ils jugent comme étant des questions pièges pendant le concours, qui ont d'ailleurs parfois coûté le diplôme à certains de ces candidats. Voyez les précisions avec Mickaël Dos Santos.
Racisme, homophobie, laïcité, les sujets du nouvel oral proposé lors des concours enseignants font l'objet de nombreuses critiques. Certains candidats témoignent notamment de questions pièges. Admise cette année au CRPE, le concours de recrutement des professeurs des écoles, Suzanne a elle aussi été confrontée à un thème loin d'être évident.
Imaginez qu'un enfant se bouche comme ça les oreilles en classe en disant « la musique c'est le mal ».
Même son de cloche pour Cécile, jeune diplômée du CAPES, future professeure de collège-lycée.
Lisa, de 16 ans, vient vous voir et vous confie qu'elle se sent plus garçon que fille, voudrait se faire appeler Louis. En revanche, elle ne veut pas que ses parents soient tenus au courant de la situation. Et vous, en tant qu'enseignant, vous remarquez qu'elle commence à sécher les cours de sport. Donc comment on réagit?
Heureusement, pour ces deux candidates, leurs expériences sont jouées en leur faveur.
Je suis formatrice en français langue d'intégration, donc mon public, c'est un public migrant.
C'était des problématiques que j'avais déjà eues pendant les passages d'école.
Surpris par la teneur des questions, d'autres candidats ont été sanctionnés par des notes négatives. De quoi mettre fin à leur rêve de diplôme à l'heure où la France fait face à une pénurie d'enseignants.
Julien Drey, je vous ai vu sourire, peut-être un sourire un petit peu jaune pendant, oui, pendant le reportage. Jaune. Dites-nous tout.
Non, c'est pas ça, c'est que normalement, un professeur, on le teste d'abord sur ses connaissances, la capacité à enseigner par rapport à ses connaissances. Là, on est dans la psychologie, en plus, la psychologie qui s'adapte à des évolutions de société, ou en tous les cas, des évolutions qu'on essaye de subir. Je suis pas convaincu que ça sera forcément les questions qui sont posées aujourd'hui. Voilà. Je suis même surpris par la manière dont on les aborde. Que les professeurs soient formés après, l'évolution des publics, des pratiques, tout ce que vous voulez, d'accord. Mais là, qu'on mette ça comme point pour sélectionner un professeur, pour savoir si un enfant, normalement, d'abord, il n'a pas à mettre les mains sur les oreilles pour pas entendre la musique, hein. Excusez-moi, pour entendre la musique comme tous les élèves de la classe. Voilà.
Gabriel Cluzel.
Oui, c'est quand même assez effarant parce qu'en principe, quand on passe, par exemple, le CAPES d'histoire-géo, on devrait être interrogé sur l'histoire-géo et c'est là-dessus qu'on devrait être jaugé, sachant que la plupart des parents et sans doute même la totalité attendent que les professeurs transmettent des savoirs, apprennent à lire, écrire, compter pour les plus jeunes et l'histoire, la géographie, le français, les lettres, les maths, mais certainement pas se lancent dans des démonstrations sur l'islamophobie, et tous ces thèmes propres au wokisme finalement. Et on voit que ça, sous couvert de bonnes intentions, c'est en train de d'irriguer profondément l'éducation nationale. Et pour mettre un peu penché sur la question, visiblement, ces questions sont posées en plus avec des coefficients extrêmement importants qui peuvent même supplanter le contenu de la matière elle-même. C'est quand même assez fou. Alors, quand on entend parler de questions pièges, moi je croyais au début que c'était des questions extrêmement pointues en histoire, par exemple, pour vérifier la connaissance. Non, pas du tout. Des questions dont on nous a décrit toute l'absurdité. C'est évidemment effarant, en plus dans un contexte de pénurie de professeurs, on décourage des vocations, et puis on voit bien que les réponses sont éminemment subjectives. Autant résoudre une équation, c'est très objectif, autant quand on passe le CAPES de maths, autant répondre à ce genre de questions, il peut y avoir une façon de jauger les candidats sur le plan idéologique. Et de toute évidence, c'est quand même le biais de ces questions. Et c'est très, très inquiétant. Moi, je crois que d'ailleurs, c'est éminemment symbolique du problème de l'éducation nationale. Vous savez, quand vous allez dans un magasin de primeurs, vous voulez acheter un kilo d'abricots, si on vous dit « je vous donne un kilo d'antiracisme », ça vous déplaira, parce que ce n'est pas ce que vous êtes venu chercher. Mais quand vous mettez vos enfants à l'école, vous ne voulez pas qu'on vienne les chercher sur ces thèmes-là. Ce n'est pas du tout à l'école d'aborder ces thèmes-là. Alors, c'est vrai qu'on voit que dessous, il y a toutes les inquiétudes liées à la laïcité. Alors, la laïcité, c'est un mot pudique, en fait, pour parler des coups de boustoir islamistes, hein, parce que ce n'est pas la religion taoïste qui vient poser problème. Et qu'on essaie de trouver des solutions, mais en réalité, on n'est même pas capable de nommer le problème. Alors, pour trouver une solution à un problème qu'on n'ose même pas nommer, c'est évidemment très compliqué.
Je viendrai vous partager le constat sur ce
point. Si vous voulez,
problème profond dans l'école.
Je vais être honnête avec vous, pendant ces dernières années, j'entendais un certain nombre de choses qui se disaient sur les évolutions à l'intérieur de l'éducation nationale. Je pensais que des fois, il y avait un phénomène d'exagération ou de focalisation. Mais c'est vrai que quand on voit un reportage comme celui-là, et quand on entend maintenant des choses qui se disent, y compris sur ce qui se passe à l'université, il y a une dérive inquiétante de l'éducation nationale. Et il y a vraiment une question qui est posée, c'est quoi le but de l'école ? Le but de l'école, c'est d'abord d'instruire et d'abord de transmettre un savoir. C'est pas de s'adapter aux évolutions de la société pour essayer de respecter ces évolutions tout en brutalisant personne pour n'avoir aucun problème. Par ailleurs, c'est pas au professeur de s'occuper des questions qui sont évoquées là. Un enfant qui a un problème de personnalité, un problème d'identité, c'est pas le professeur qui va le résoudre. Ça s'appelle, normalement, il devrait y avoir des psychologues scolaires.
Mais néanmoins, les professeurs peuvent faire face à ce genre de situation. Il faut savoir réagir auquel cas.
Les professeurs peuvent être alertés. Mais leur formation initiale, elle prend pas en considération ces choses-là. Après, il y avait ce qu'on appelle les psychologues scolaires. Donc, il y a un psychologue scolaire, on peut le signaler au psychologue scolaire. Le psychologue scolaire peut discuter avec la famille, parce que c'est avec la famille qu'il faut discuter, il faut voir, etc. Mais si vous demandez... Ce qui est en train de se faire, c'est que le professeur, ça devient une sorte d'animateur de classe. Vous voyez, le professeur, c'est pas ça. D'abord, c'est une autorité. C'est une autorité qui est liée à la transmission du savoir. Et ça veut dire qu'on est en train progressivement de relativiser le savoir... ou alors de le diversifier de telle manière que plus personne n'y comprend rien. Et ça me renvoie à l'idée que notre éducation, le système d'éducation nationale est aujourd'hui dans une véritable crise de savoir, dans une crise de savoir où il veut aller, quelles sont ses missions, et que des ministres passent, s'adaptent pour pas avoir de problème, pour faire bien peut-être à la télévision. Et je comprends pourquoi désormais la confiance dans notre système scolaire est ébranlée.
Vous parlez d'évolution, de dérive. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis ? Qu'est-ce que vous jugez comme étant une dérive de l'éducation nationale ?
Ce n'est pas une dérive de l'éducation nationale, c'est des évolutions de société, etc. L'éducation nationale, il y a une dérive dans la mesure où elle considère qu'elle doit s'adapter et intérioriser des phénomènes de société qui sont quand même compliqués et sur lesquels, excusez-moi, c'est pas facile pour un instituteur ou un professeur de répondre aux questions qui sont posées. Par contre, sur la laïcité, parce que il y a deux cas différents, qui sont pas de la même nature. Il y a un problème qui est lié on voit bien, l'enfant qui veut pas écouter de la musique, c'est pas parce qu'il aime pas la musique, hein. C'est pas parce qu'il a une sorte d'atavisme lié à la musique, c'est parce qu'il a, à l'école, on lui a expliqué que cette musique, elle posait des problèmes, etc. Là, on a un problème d'identité par rapport à une religion qui refuse cette musique-là. L'autre, c'est un autre problème, c'est un problème d'évolution, de mœurs, de jeunes qui sont perdus, parce que avec tout ce qui s'est passé dans la société, les points de repère sont plus évidents. Voilà.
Vous partagez le constat, Gabriel Cluzel ?
Oui, parce que on voit bien que ce temps passé à aborder ces sujets-là, qui, pour lesquels évidemment les professeurs ne sont pas formés, et du reste ils n'ont pas à s'immiscer dans ces sujets-là. C'est pas leur boulot. Ils sont déjà flics bien souvent, hein, parce qu'ils doivent faire la discipline dans des contextes extrêmement compliqués. Ils devraient pas le faire non plus. Et maintenant ils doivent s'interroger et arbitrer sur des sujets qui ne sont pas les leurs. Quand un enfant s'interroge sur son identité et qu'il est mineur, ça intéresse ses parents et sa famille. Mais en quoi le professeur aurait à s'immiscer là-dedans? Ça paraît complètement fou. Et évidemment, tout le temps passé à s'occuper de ces sujets-là, c'est du temps en moins pour enseigner le reste. On voit que dans tous les classements PISA, on passe son temps à se lamenter. La France baisse un peu plus chaque année. Le niveau est désastreux. On compare les copies d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans à celles d'aujourd'hui. Tout le monde pleure. Mais évidemment, on a finalement éjecté ce qui était le cœur du métier de l'école, où on lui a laissé une place congrue. Je vous dis, la parfaite au coefficient de ces matières où on évalue les profs sur des critères d'ailleurs très obscurs. Ils ne savent pas quels sont les barèmes, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent faire, prend une place énorme, et les enseignements fondamentaux n'y sont plus. Donc il y a un chantier énorme à faire sur ces sujets-là, et rassurer le professeur et l'aider, c'est lui dire que son champ, il est circonscrit à sa matière. Point barre. Le reste, ça ne le concerne pas. C'est d'ailleurs la meilleure des inégalités de traitement pour les enfants. Il les juge simplement sur leur façon de restituer les savoirs, de travailler, et tout le reste ne vient pas, ne rentre pas en ligne de compte. Donc on voit qu'il y a un chantier énorme, et je ne suis pas sûre que le nouveau ministre de l'Éducation soit le plus à même de le mener, compte tenu, on peut lui laisser sa chance évidemment, mais les yeux de chimène qu'il a fait pour toutes les théories woke par le passé, c'est évidemment inquiétant pour de nombreux parents.
Mais le reportage, si vous voulez, il s'arrête là où mes interrogations commencent. Parce que moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'est-ce qu'attend l'éducation nationale comme réponse aux questions qu'elle a posées. Parce que on pose deux questions à des professeurs, et comment on va juger leur réponse et la valeur de leur réponse. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment l'éducation nationale va juger ses professeurs en fonction de leur réponse, et quelle est la grille qui va permettre de les évaluer. C'est-à-dire que et c'est là que c'est intéressant, parce que les deux professeurs, on les met devant des phénomènes de société que, bon, par ailleurs, qu'on peut comprendre. Je veux dire, c'est vrai que un professeur ou un instituteur peut se retrouver aujourd'hui devant ce type de situation, regarde l'évolution. Mais l'éducation nationale a donc fabriqué une réponse adaptée, et où est cette réponse? Comment elle a été fabriquée? Parce qu'elle pose des tas de problèmes, y compris par rapport à la laïcité, par rapport à la théorie des genres. Bon, tout ça est quand même très surprenant. Et c'est ça qui, je dirais presque, ce qui m'intéresserait, c'est que vous alliez poser la question à l'éducation nationale en disant: quelles sont les réponses que vous attendiez de ces professeurs?
Pas sûr qu'on ait une réponse pour autant.
Bah oui, mais c'est ça qui est très inquiétant.
C'est ça le problème.
Excusez-moi, ouais. C'est ça qui est très inquiétant, parce que c'est l'éducation nationale. Donc ça nous concerne tous en tant que citoyens. Donc qui a élaboré les réponses, et quelle est la nature de ces réponses qui sont apportées? Excusez-moi, c'est pas le rôle de l'école.
Alors moi je vais rajouter quand même quelque chose, c'est que c'est pas tout à fait d'aujourd'hui, même si aujourd'hui, de fait, ça a été officialisé. Pour avoir discuté avec de nombreux professeurs, il y a un tropisme de gauche, voire d'extrême gauche, très fort à l'éducation nationale. Et aujourd'hui, un professeur de langue, par exemple, me disait, quand on va passer des oraux, on sait qu'il faut ne pas avoir l'air de ressembler à une bourgeoise. Quand on vient d'un établissement catholique, ça peut être un point négatif. Il faut donner le change sur des questions qui sont idéologiquement biaisées. C'est pas d'aujourd'hui. Mais ce qui est choquant, c'est de voir ce mode de recrutement. Aujourd'hui, autrefois, c'était des questions orales un peu informelles, institutionnalisées, et on se demande de fait sur quels critères, vous avez raison de le dire, sur quels critères ils sont jugés, et quelles étaient les bonnes réponses alors qu'on nous le dise. C'est quoi le catéchisme de l'éducation nationale? Ça serait aussi intéressant de savoir de qui émanent ces directives, qui les a faites, enfin, de creuser la question au-delà de cette indignation de ceux qui ont passé l'examen et qui se sont fait refouler, encore une fois, à un moment où on manque de profs. Non mais on marche sur la tête.
Juste une remarque. Il y avait dans le temps un tropisme de gauche dans l'éducation nationale, puisqu'il y avait des instituteurs qui étaient des instituteurs formés à l'école de la laïque, comme on disait, qui étaient très attachés à l'instruction publique et au rôle de l'instruction publique. Et en général, ces instituteurs ces instituteurs qui considéraient l'école comme un instrument de promotion sociale et qui s'y consacraient pleinement et totalement. Bon, là, on peut dire que c'est un tropisme de gauche. En tout cas, c'est pas ma gauche. Hein.
Non, mais c'est deux tropismes de gauche différents. De fait, les hussards noirs de la République avaient à cœur de transmettre, justement pour montrer qu'il y avait une espèce d'émulation entre l'école privée et l'école publique, ils avaient à cœur de transmettre, même sur les valeurs morales, un peu les lessiver à la laïcité, mais c'était finalement des valeurs issues du décalogue, hein, parce que c'était un peu l'humus de notre société. Mais ils avaient à cœur d'avoir finalement un enseignement de grande qualité pour rivaliser avec les frères des écoles chrétiennes, par exemple, qui étaient des ordres enseignants. Et on voit qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Les hussards noirs de la République, tout le monde en parle, tout le monde voudrait les voir revenir, mais de fait, on ne les voit pas. C'est complètement autre chose, et notamment la méritocratie qui était au cœur de l'enseignement de ces hussards noirs a totalement disparu.
Alors moi, je nuancerais, je pense qu'il y a beaucoup de professeurs qui y croient, qui sont encore des hussards noirs. La vérité, c'est qu'il y a une administration de l'éducation nationale qui ne joue pas à la carte de soutien à ces professeurs-là. Et il y a, la vérité, c'est qu'il y a une mode venue d'outre-Atlantique, d'une gauche différentialiste, et j'aime pas même le mot gauche parce que je pense que c'est contradictoire.
Il y a la fameuse cancel culture.
La cancel culture, qui est un énorme problème aujourd'hui, parce que pendant un temps, je croyais que la société française était préservée de ça, et qu'on avait une force liée à notre idéal républicain qui finalement allait vite surmonter ça. Mais la vérité, j'ai obligé de le reconnaître, c'est qu'on cède et des digues sautent, et que c'est dans l'administration de l'éducation nationale que l'essentiel se passe, c'est-à-dire dans les rectorats, dans les inspecteurs d'académie, encore qu'il n'y en a plus beaucoup, en tout cas, qui font le travail que faisaient les inspecteurs, c'est-à-dire vérifier que ça fonctionne. Ils font beaucoup de rapports et de choses comme ça. Et là, s'il y a une vraie réforme à faire dans l'éducation nationale, certes, il faut soutenir les profs, mais c'est plutôt toute cette hiérarchie qui, elle, intègre totalement les problèmes de société et fait des colloques à n'en plus finir là-dessus. Ça devient particulièrement agaçant.
Non, mais dernier point, je trouve très intéressant l'usage du mot cancel culture, parce que quand on parle de cancel culture, on imagine la statue qu'on essaie de faire tomber et que. Mais c'est pas que ça. Finalement, rendre nos enfants ignorants, parce que c'est ça, si on ne leur transmet plus le savoir, on ne leur transmet plus l'histoire de leur pays, par exemple, bah c'est une partie de la cancel culture. Ce n'est pas de la destruction, c'est de la déconstruction, mais ça en fait partie, et de fait, elle s'installe à pas feutrer, même si elle ne dit pas son nom, parce qu'on a on a des enfants, encore une fois, si on ne leur transmet pas de rien, par exemple, sur l'histoire de leur pays, ça va être une page blanche. Mais c'est pareil en philosophie, c'est pareil en lettres, on leur interdit d'avoir un esprit critique, et tout cela est gravissime, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'en prend pas la mesure. Je suis d'accord avec vous. Individuellement, il y a des professeurs excellents qui essaient d'ailleurs de vider l'océan avec une petite cuillère, mais collectivement, c'est un sujet extrêmement grave. C'est peut-être le plus grand des sujets, parce que notre avenir, il est là, évidemment.
Non, mais moi, je pense que, j'insiste, je pense qu'il y a besoin d'une révolution éducative, maintenant. C'est-à-dire que
c'est même plus des réformes, c'est une révolution éducative.
Des petites réformettes pour faire semblant d'eux. D'abord, il faut revenir aux savoirs fondamentaux. Et il faudra donc il faut un débat de société. Je vous raconter une anecdote véritable. Il se trouve qu'un jour je suis en face d'un prix Nobel de mathématiques et que je lui raconte les difficultés que j'ai eues avec la théorie des ensembles, puisque je fais partie de cette génération qui a été confrontée à l'installation de la théorie des ensembles en mathématiques. Et je lui dis, écoute, franchement, c'était pénible, on comprenait rien, les espaces euclidiens, les machins, etc. Et en plus, on posait sans arrêt la question à nos professeurs, à quoi ça sert? Et il nous répondait, à rien, à former vos esprits. Et lui, il me regarde en rigolant, il était député, donc vous voyez qui je veux parler, il me dit, et en plus, ce que tu sais pas, c'est que cette théorie était fausse. J'ai dit, mais tu te rends compte ce que tu es en train de m'expliquer? C'est-à-dire que l'éducation nationale a fait une révolution sur les maths, en valorisant les mathématiques, en lançant la valeur fondamentale, au détriment de tout ce qu'on appelait la culture littéraire qui était essentielle. Tout ça pour rien. Et les mathématiques, en fait, ils ont servi pour une bonne part à fabriquer de la sélection. On le voit, par exemple, dans les études de médecine, où la première année de médecine, on fait tomber des jeunes qui ont potentiellement des futures carrières de médecine avec des choses qui servent à rien. Voilà, juste là. Donc c'est ça la révolution.
Vous parlez d'un député qui aime beaucoup les araignées, par exemple.
Ouais, par exemple. Voilà.
D'accord. Non, mais ça c'est intéressant parce que il faut voir l'évolution. C'est d'ailleurs Pierre Bourdieu qui l'a voulu, cette suprématie des maths, parce que il considérait que les humanités, les lettres favorisaient l'endo-recrutement, parce que quand on était dans une famille plus cultivée, on avait lu des livres, etc. Donc il a favorisé cette suprématie des maths. De fait, on a oublié les lettres. C'est éminemment dommage, y compris pour les médecins eux-mêmes, parce que c'est quand même des gens qui sont amenés à annoncer à des gens qui vont mourir mourir. Donc quand vous êtes absolument ignorant de la patte humaine, de la philo et de toutes ces questions sur la vie et la mort, et que des techniciens, alors je ne dis pas qu'ils le sont tous, ce n'est pas le cas, mais c'est vrai que quand on ne fait que des maths, ça peut revenir à ça, eh bien c'est très ennuyeux. Mais alors aujourd'hui, c'est marrant parce qu'il y a un retour en arrière. Pourquoi ? Parce qu'on considère que les maths sont devenus réactionnaires. Parce que une équation de maths, vous ne pouvez pas la changer. Elle est bonne, elle n'est pas bonne. Donc on est au cœur de la méritocratie. Donc soit on aide les enfants, par exemple, d'origine modeste à accéder à un niveau de maths comme les autres, soit ils échouent. Donc on est vraiment dans l'idée qu'il faut une stratégie d'excellence pour les maths. En revanche, tout ce qui est sciences humaines, lettres, etc., on peut un peu faire de la discrimination positive. On le voit par exemple à Sciences Po. Alors en même temps, il ne faut pas se leurrer, on discrédite ces écoles-là. Aujourd'hui, les grandes écoles d'ingénieurs gardent toute leur aura parce que on sait que c'est objectivement encore sur des critères réels que les enfants ont été évalués et pas sur la discrimination positive qui est un piège en réalité parce que on soupçonne chacun ensuite c'est un peu comme la parité d'ailleurs avec les femmes, on se dit est-ce que finalement il est là parce qu'il est d'origine populaire et que on a usé de la discrimination positive ou est-ce qu'il est là pour ses mérites personnels. Donc c'est vrai que aujourd'hui tout d'un coup on fait le procès des maths. Il y avait un article dans le Washington Post sur les maths en disant que les maths étaient réactionnaires. Vous voyez, on marche sur la tête, mais c'est intéressant de voir le mouvement de balancier sur ces sujets.
Enfin, moi, je ne dis pas que les maths sont réactionnaires. Je dis simplement que pendant tant de temps, moi, j'appartiens à une génération, on nous a expliqué, d'ailleurs, c'était simple, quand vous faisiez un bac scientifique, vous travailliez la maths et la physique. Ils avaient des tels coefficients que tout le reste n'avait pas d'importance. D'ailleurs, vous jouiez au tarot quasiment pendant les cours de philo parce qu'on vous disait, mais ça, voilà. Bon, et c'était pas bien parce que je pense qu'on a été, un certain nombre d'entre nous, il nous a manqué un savoir qui a été utile. Et moi, je crois que les humanités, parce que quand on regarde, quand on fait le bilan les uns et les autres, qu'on raconte nos parcours scolaires, les choses qui nous restent le plus souvent, c'est les humanités qu'on a appris. Mmh. Ces professeurs d'histoire, ces professeurs de géographie, ces profs de français, de philo, qui nous ont appris les tas de choses qui restent. Les récitations, rappelez-vous, toutes les générations qui avaient en mémoire toutes ces récitations, tout ça a disparu. Voilà. Et je pense que c'est une grave erreur. C'est pour ça que je pense que la question qui est posée, c'est une révolution pédagogique. Il faut reprendre en main les programmes. Mais alors, attendez, vous allez demander aux libraires, vous expliquer comment ça se passe, les programmes. Tous les deux ans, on change les... Pourquoi ? Parce que les éditeurs, ils veulent sans arrêt changer les programmes. On n'y comprend plus rien. Ouvrez un livre d'histoire. Si vous allez voir, on est perdu. Pourtant, j'ai fait des études d'histoire. Mais j'ai buté en ouvrant le livre d'histoire de mes enfants, parce que la chronologie n'existe plus. On passe à la thématique, la géographie. Voilà, je pense... Voilà, il manque à l'éducation nationale maintenant un grand Jules Ferry qui va remettre de l'ordre. Parce que sinon, ce qui est en train de se passer, c'est le plus grave. C'est ça, l'inégalité sociale. C'est qu'à côté se construit un système d'école privée qui, elle... garde un certain nombre de disciplines et malheureusement c'est toujours ceux qui ont les moyens qui vont pouvoir y aller, encore que je dis une erreur parce qu'il y a aussi maintenant des écoles coraniques qui s'ouvrent et qui connaissent des réels succès parce que elles gardent un certain ordre dans l'enseignement.
Il reste quand même des établissements publics d'excellence, parlons par exemple, même s'il y a eu des tentatives pour les mettre à bas, mais de Louis le Grand et d'Henri IV. Je remarque par exemple que les langues anciennes disparaissent dans à peu près tous les établissements. En revanche, pour rentrer rue d'Ulm à Normale Sup, le latin, on a bien en tête toutes ces vertus. Donc tout ce que l'on met à bas actuellement, de fait, va creuser des inégalités sociales profondes. C'est terrible parce que on n'a que ce mot-là à la bouche, égalité, et en fait il y avait beaucoup plus d'égalité autrefois quand un petit paysan était repéré à l'école par le curé ou par l'instituteur dont nous parlions tout à l'heure. On l'envoyait faire des études et il y avait une réelle méritocratie, très honnêtement, auquel on n'accède plus aujourd'hui. C'est évident. C'est la grosse entourloupe de ce siècle sous de bonnes intentions. Le problème, c'est que si on enlève la suprématie des maths, mais parallèlement, on ne permet pas aux lettres d'être exigeantes comme elles l'étaient autrefois, ça va être là aussi une catastrophe. Et notamment en matière d'orthographe, il faut voir aujourd'hui les dégâts sur plusieurs générations même.
C'est pour ça que je suis pour enlever, oui, je veux mettre les pieds dans le plat, je suis pour enlever la suprématie des maths, je suis pour qu'on continue à enseigner les mathématiques, mais je suis contre ces coefficients coefficients terribles qui font que, par ailleurs, c'est même plus le cas parce que maintenant ils ont mélangé les matières.
Et un peu le bac à la carte. Voilà, on peut faire plus ou moins avec les maths, etc.
Ouais. Moi, quand je parle avec des enfants, les jeunes, ils ont mélangé les matières et donc on s'y perd parce que c'est de l'économie mélangée à des mathématiques appliquées, etc. Les pauvres, je ne sais pas comment ils font pour s'en sortir. Faut avoir du courage hein, quand on est un élève aujourd'hui pour comprendre comment tout ça a évolué. Et ce qui est quand même très inquiétant, c'est que vous avez des présidents de la République, des ministres qui, en privé, vous disent ça ne va pas, mais après, ne font pas ce qu'il faut faire.
Julien Drey, Gabriel Cluzel, vous restez bien autour de la table. Vous également devant CNews. On revient dans quelques tout petits instants dans cette dispute. A tout de suite. De retour en direct sur CNews dans Ça se dispute avec mes invités de ce dimanche soir, mes courageux de ce dimanche soir, Julien Drey et Gabriel Cluzel. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Il est bientôt 20h30, le tour de l'actu avec Isabelle Piboulot.
Il serait utile que les sociétés d'autoroutes fassent un geste. Déclaration de Clément Beaune dans les colonnes du Parisien. Face à l'inflation, le ministre des Transports souhaite que les entreprises abaissent leurs tarifs. Les prix des péages coûteront en moyenne 2% plus cher par rapport à l'an dernier. Une table ronde devrait se tenir à Bercy pour réfléchir à des actions. Sous la canicule, le Portugal en proie aux flammes. Près de 1500 pompiers sont mobilisés pour tenter de maîtriser trois feux de forêt. Depuis plusieurs jours, des incendies font rage dans le centre et le nord du pays. Les habitations sont menacées. Au moins 1500 hectares de végétation ont déjà été détruits. Et enfin, en Formule 1, victoire pour Charles Leclerc. Le Monégasque a remporté le Grand Prix d'Autriche devant Max Verstappen. Une bataille sur le fil avec moins de 3 secondes d'écart entre le Néerlandais et le vainqueur. Lewis Hamilton complète le podium après l'abandon de Carlos Sainz en raison de l'incendie de son moteur.
Merci Isabelle Piboulot, on vous retrouve dans une demi-heure. J'aimerais juste, pour terminer le débat qu'on avait il y a quelques minutes, vous poser une question toute simple à tous les deux. S'il y a un prof dont vous vous souvenez particulièrement, Julien Drey, ce serait prof de quelle matière?
C'est un prof de philosophie en Hippocagne.
Parce que?
Qu'il est en total désaccord avec moi. C'est-à-dire, moi j'étais en total désaccord avec lui, parce que j'étais formé plutôt à l'école militante marxiste, et j'ai en face de moi un heideggerien, mais d'un très très haut niveau. Et donc au départ, c'était très mauvais. Et à la fin, il m'a ouvert les yeux sur ce qu'était l'importance de la philosophie.
Gabriel Cluzel.
Alors moi, c'est une institutrice, plutôt, je peux citer son nom d'ailleurs, ça s'appelait Madame Ruiz. Et c'était en CM1, CM2, j'ai eu 2 ans d'affilée. Et c'est vrai qu'elle était excellente, d'une grande rigueur, et je crois qu'elle m'a permis de faire des études ensuite, et du reste je sais, pour les avoir suivis un peu, que tous ceux qui étaient dans sa classe et qui étaient dans la mienne aussi, donc on tous eu ce sentiment-là, et c'est fou ce que ce métier d'institutrice, vous savez, c'est le moment, je trouve d'ailleurs, de leur rendre hommage, hein, c'est un peu des métiers panoplies comme ça, instituteurs, pompiers, les instituteurs, ils vous marquent, vous vous souvenez plus de votre assureur et de tout un tas d'autres métiers qui gagnent sans doute bien mieux leur vie, mais ces instituteurs...
Oui, nous prennent notre argent aussi, les assureurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'en souvient.
Oui, mais vous savez, il y a beaucoup de métiers prestigieux, quand vous faites de l'audit, la fusion acquisition, vous gagnez beaucoup d'argent, mais vos clients ne se souviennent pas de vous. Je crois que tout le monde se souvient de ces instituteurs, et celle-ci m'avait spécialement marqué.
Moi, j'ai fait
dans une école publique parisienne, tout à fait.
Moi, j'ai fait un petit correction, parce que sinon, ça serait injuste. J'ai eu, pendant tout, au lycée, de la seconde jusqu'à la terminale, des équipes de professeurs exceptionnels. C'est-à-dire des gens qui ne comptaient pas leur temps. Ils nous voyaient militer, des agitateurs, et ils nous reprenaient derrière, ils nous convoquaient chez eux pour pouvoir rattraper les exercices qu'on n'avait pas fait, que ce soit en histoire, que ce soit en maths, soit en physique. Et j'ai pas retrouvé d'équipe professorale de cette nature-là.
Ben voilà qui termine ce débat sur l'école de fort bonne manière. Merci, cher Julien Drey. On va parler de pouvoir d'achat, si ça vous va, parce que c'est Gabriel Attal qui en parle dans Le Parisien. Voyez ce qu'il nous raconte avec Adrien Spiteri.
Eh bien, écoutez, la principale information de cette interview, c'est que l'État veut réduire ses dépenses. Nous sommes passés du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. On ne doit pas s'interdire de dépenser, mais on doit se poser les questions nécessaires avant d'engager des dépenses importantes, a déclaré Gabriel Attal. Il explique par ailleurs que pour 1 euro de plus dépensé par l'État, on en dépense 3 pour aider les Français. Alors ici, le nouveau ministre délégué au compte public tend clairement la main aux Républicains attachés à cette question de la réduction de la dette budgétaire, se disant par ailleurs prêt à regarder les propositions des oppositions avec la volonté que le travail paye plus, comme l'illustrent ses propos. Nous avons en partie rétabli dans le quinquennat précédent la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est cohérent avec notre souhait que le travail paye plus. Gabriel Attal s'est également adressé à la gauche et en particulier à Jean-Luc Mélenchon qui souhaite organiser une marche contre la vie chère. Nous voulons des pensions de retraite, des salaires des fonctionnaires qui augmentent dès juillet, une remise carburant qui se poursuit à la rentrée. Ça me semble plus efficace qu'une marche. Rappelons enfin que la NUPES déposera demain une motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne.
Si on a le temps, on y viendra sur cette motion de censure en fin d'émission. On va d'abord évoquer peut-être ces 50 milliards d'euros parce que Gabriel Attal nous dit on passe du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. Néanmoins, on débourse 50 milliards d'euros dès le début du quinquennat, Julien Drey.
Non, j'étais inquiet sur la formule parce que je me suis dit ça veut dire qu'avant, combien ça coûte, ça n'existait pas. C'est inquiétant pour un responsable de l'État. Je ne sais pas quel est le cabinet de communication qui lui a fourni la formule et qui l'a trouvée bonne. Moi, je la trouve très inquiétante. Bon, parce que elle dit donc que finalement, avant, la gestion publique, c'était n'importe quoi. Alors, je ne crois pas que les choses se passent comme ça. En tous les cas, j'espère qu'elles ne se passent pas comme ça. Le quoi qu'il en coûte, il faut être honnête, a été une réussite dans la mesure où il a permis à l'économie de ne pas sombrer. Bon, alors après qu'il y a eu des exagérations, qu'il y a eu des difficultés, oui, mais si on n'avait pas fait ça, on ne sait pas dans quel état se retrouveraient notamment toutes nos petites entreprises. Donc le quoi qu'il en coûte, il y a quand même eu un problème. C'est qu'il y a un certain nombre de grandes entreprises qui ont bénéficié d'aides qui n'étaient pas nécessaires. C'est toujours la même chose. Alors maintenant, ils sont effectivement rattrapés par cette culture comptable de la gestion de la dette. Moi, je ne suis pas pour qu'on flambe l'argent comme ça, mais je connais cette culture du déficit des 3% qu'il fallait respecter coûte que coûte et de cette... la manière dont on rabotait les budgets, etc.
Ça n'existe plus. Terminé.
Oui, non. Ça veut dire qu'on va recommencer à économiser là où il ne faudrait pas économiser. Et par contre, là où il faudrait rationaliser, on ne le fera pas.
C'est-à-dire sur la santé, l'éducation, par exemple.
Ça veut dire que, par exemple, dans tout ce qui est c'est-à-dire que les ARS, on ne va pas les réformer. Mais par contre, on ne va pas mettre d'argent là où il faut. L'administration de l'éducation nationale, on ne va pas y toucher grand-chose. Par contre, les profs, eux, on va leur demander plus. C'est la question qui est posée. Et donc, en fait, ce gouvernement dont on pensait qu'il avait rompu avec une culture qui a quand même conduit la fonction publique, notamment les services publics, etc., dans des situations très difficiles, parce qu'il n'avait qu'une gestion comptable des choses, ben, ils sont en train d'y revenir.
Gabriel Cluzel.
Alors le quoi qu'il en coûte, c'est quand même pas un dogme de foi. Hein. On entend toujours le saint quoi qu'il en coûte et qui a aidé, qui a sauvé tout le monde. On pourrait quand même en faire l'inventaire et voir si ce n'avait pas été excessif, si on n'a pas fait fermer tout un tas d'entreprises, de commerces qui n'auraient pas dû l'être. On a le droit de se poser la question parce que le problème, c'est qu'il a ouvert une boîte de Pandore. Il a succédé à une période où le gouvernement était comme Harpagon, il fermait la bourse en disant mais non, de toute façon, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas vous en donner. On se souvient de l'épisode des Gilets jaunes. Et tout d'un coup, c'est Noël, on rase gratis. C'est l'impression, évidemment, que ça a donné. Donc aujourd'hui, les gens se disent, maintenant, après le Covid, il y a l'inflation. Faisons la même chose. Pourquoi on ne peut pas, là encore, ouvrir les cordons de la bourse? Moi, ce qui m'ennuie beaucoup, au-delà des fantaisies de la France insoumise, c'est de faire une manif contre la vie chère. C'est un peu particulier. Une manif contre la guerre, le cancer. Enfin, vous voyez, c'est là, on est vraiment dans le mot magique, quoi. C'est un peu bizarre.
C'était un peu la base du mouvement des Gilets jaunes, la manifestation manifestée contre la vie chère.
Non, parce que c'était extrêmement ciblé. C'était pas contre la vie chère de façon générale. Eux, ils protestaient de se voir étranglés au départ par une hausse de l'essence et ils interpellaient directement le gouvernement. Là, il faudrait déjà savoir poser les faits, savoir ce qui est de la responsabilité du gouvernement, de la guerre en Ukraine, qui a bon mondiaux, disons-le. Hein. C'est un peu comme le Covid. Après le Covid, la guerre en Ukraine qui explique tout, alors que derrière les problèmes conjoncturels, il y a évidemment un sujet structurel. Et donc, c'était selon moi, bien plus ciblé que cette espèce de mantra de manif contre la vie chère. Mais on sent bien que la France insoumise, de fait, veut anticiper une gronde qu'elle... Et finalement la circonscrire et la prendre en main, une gronde qu'elle imagine sur ces thématiques. Donc elle prend une façon très large pour l'appréhender. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'une fois de plus, ce seront les classes moyennes qui vont trinquer. On le voit, parce que toutes les mesures qui sont avancées aujourd'hui par le gouvernement, ou presque toutes, sont liées à des seuils. On parle toujours des classes les plus modestes, des gens les plus modestes, mais qui est modeste? À partir de quand est-on modeste? Et il y a évidemment toujours ces classes moyennes qui sentent le déclassement poindre depuis longtemps et qui sont trop riches pour être pauvres et trop pauvres pour être riches. Et évidemment, celles-là ne peuvent que trinquer. Lutter contre l'inflation, c'est lutter contre l'inflation pour toutes les strates de la société. C'est tout. Sinon, on ne lutte pas contre l'inflation de façon réelle. Et donc, c'est véritablement ce qui peut être inquiétant pour les mesures qui ont été annoncées.
D'abord, moi, je veux bien que la France insoumise devienne maintenant l'élément agitatoire qui fait que dès qu'ils ont prononcé quelque chose, on est forcément obligé d'être contre parce que c'est la France insoumise. Mais ils ont le droit de se battre contre la vie chère. Et c'est pas parce que c'est la France insoumise qu'ils ont tort. Je veux dire, quand on nous reprochait à l'époque de dire vous êtes systématiquement contre le Front National, mais quand il fait beau et que Marine Le Pen dit qu'il fait beau, vous n'allez pas dire qu'il fait mauvais. Bon, je veux dire, la France insoumise, elle dit quelque chose qui est vrai. La vie est chère. Et elle est de plus en plus chère. Et ça pèse sur les ménages les plus modestes ou sur les familles les plus modestes. Et là, effectivement, il y a une aide à apporter. Je pense que la meilleure aide, ça serait de revaloriser les salaires. D'abord, plutôt que ces chèques ponctuels dont on ne comprend plus rien et qui, effectivement, pour une part, pénalisent toujours les mêmes.
En commençant par le SMIC, par exemple.
En commençant par le SMIC, mais en commençant par tous les salaires de tête. Voilà. Et on pourrait peut-être se poser aussi la question des dividendes des entreprises. Jamais les grandes entreprises n'ont été aussi riches. Donc la redistribution à l'intérieur de ces entreprises pourrait exister. Je veux dire, quand vous êtes, on est maintenant à 100 milliards hein, cette année. C'est-à-dire qu'on a battu tous les records.
C'est ce qu'on propose notamment la France insoumise.
Mais c'est pas parce que la France insoumise le propose que c'est une erreur. Je veux dire, excusez-moi, la redistribution sociale, ça existe. Je dis pas qu'il faut vider les caisses des entreprises, mais je veux dire quand même quand vous voyez comment la bourse comment ça explose et quand vous voyez que dans des entreprises on gagne 1300, 1400 euros et que quand vous venez demander 50 euros, on vous dit que vous êtes un privilégié. Alors qu'à côté, il y a des golden parachutes incroyables. C'est quand même pas démentiel de dire qu'il faut rétablir un peu de justice sociale. Le mot justice sociale a un sens. Alors, le problème qui est posé dans les dispositifs qui sont en place aujourd'hui, c'est qu'on contourne cette question de la justice sociale. Donc, on distribue des petits chèques à droite, à gauche, en disant, vous voyez, les plus modestes, on les aide. Et je suis d'accord, par contre, avec Gabriel. Là, dans cette affaire-là, les seuils, c'est terrible. Parce que vous êtes à 1500 ou 1600, vous avez le droit à rien. Et c'est vrai que dans les manifestations des Gilets jaunes, vous aviez beaucoup ceux-là qui revenaient. C'est-à-dire, il n'y a jamais rien pour nous. Nous, on travaille, nous, on est tôt le matin, et il n'y a jamais rien pour nous.
Pour les avoir couvertes, ces manifestations de Gilets jaunes, j'ai rencontré effectivement beaucoup de personnes qui avaient des salaires qui ne me paraissaient pas non plus très bas. Même très bas. C'est-à-dire qu'ils gagnaient plus de 2000 euros par mois, voire même parfois plus de 3000 euros, et qui me disaient, bon, on s'en sort pas forcément.
C'est un des problèmes
toujours,
de la société, c'est-à-dire que c'est une culture qui s'est installée. C'est qu'il y a maintenant, avec ces aides-là, il y a toute une série de gens qui commencent à calculer, qui se disent, bah, finalement, moi, j'ai un certain nombre de notamment dans la restauration, d'amis qui me disent qu'ils n'arrivent plus à trouver parce que les gens ils calculent, ils disent, finalement, avec les aides, je m'en sors mieux que si j'allais travailler.
Non, mais moi, je pense qu'il faut précisément revaloriser, mais pas seulement sur le plan financier, la classe moyenne. Il y a deux façons d'appréhender les gens, les classes populaires, comme on dit, les gens modestes. C'est la première, c'est de les plaindre, de vouloir leur donner par toutes sortes de mesures de quoi survivre et puis de les garder en électorat captif. Mais moi, la meilleure façon de les aimer, c'est de faire en sorte qu'ils ne restent pas dans leur état modeste et de les aider finalement à accéder à une forme de bourgeoisie. Je sais, c'est honni par la gauche, mais c'est ça, les rendre propriétaires,
et pas
les laisser dans des logements sociaux.
C'est pas contraire à l'histoire de la gauche de bien vivre.
Non, mais reconnaissez qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a la figure du pauvre un peu fantasmé qu'on veut laisser dans son statut marginal, révolté. Ça, c'est vraiment ce que veut la France insoumise. Alors que aider les gens pauvres, ça rejoint le sujet de tout à l'heure, c'est les aider à accéder à des diplômes, à une éducation, à des codes, à des métiers, à la propriété. La propriété
qui est oubliée par la gauche. Mais à gagner des bons salaires aussi.
Et à gagner des bons salaires. C'est pour ça que taper sur la tête des classes moyennes, mais il faut avoir envie. Alors moi, ces gens-là te disent aussi, je travaille. Vous parliez des salaires relativement élevés, tout est relatif, des jaunes. Mais si vous voulez, c'est des gens qui se disent, mais je travaille, mais finalement, je suis ponctionné, j'ai toujours l'État qui est sur mon dos, les mains dans mes poches, parce que les impôts, c'est évidemment un véritable sujet. Et je ne suis pas assez pauvre pour intéresser justement cette politique sociale. Donc je crois qu'il faut donner un peu comme il y avait le rêve américain, un rêve français. Il faut que les gens aient envie d'accéder à la classe moyenne et donc par le travail, et puis qu'ils ne soient pas dès qu'il y a une mesure qui est prise hors des seuils, et soyez toujours au-dessus du montant maximal pour y avoir droit, parce que évidemment ils ne peuvent pas progresser, monter les échelons dans la société. Et c'est vrai que c'est prodigieusement frustrant et injuste. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est pour ça que c'est un peu différent que la France insoumise quand elle veut lancer sa manifestation sur la vie chère, qui est encore une fois très vague. C'était un mouvement de classe moyenne à la base, avant d'être
récupéré et non militant, etc.
C'était totalement spontané. C'était une petite classe moyenne quand même, hein. Donc c'était un mouvement de gens travailleurs qui avaient le sentiment que leur travail n'était pas rémunéré à la hauteur de ce qu'ils fournissaient comme effort. Mais la question salariale, je vous allez voir, on va tourner autour sans arrêt avec des chèques pour l'essence, des chèques pour le pouvoir pour les supermarchés, etc. Mais on va éviter la question salariale. La vérité, justement, par rapport à d'autres grandes démocraties, il faudrait poser la question salariale chaque année avec une conférence salariale organisée par le gouvernement, avec les organisations syndicales. Ça leur redonnerait un sens et une utilité, et ça éviterait simplement les mouvements protestataires. Regardez la richesse telle qu'elle a été établie et fixer des quotas. Moi, je défends l'idée de la règle des 3/3, c'est-à-dire il y a un tiers pour ceux qui dirigent les entreprises, un tiers pour l'investissement, mais un tiers pour les salaires. Cette règle-là, elle pourrait être appliquée par une conférence nationale salariale tous les ans ou tous les 2 ans. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Il y a beaucoup de solutions qu'on pourrait apporter. On pourrait décider, par exemple, parler des salaires, pour ne pas les faire peser sur l'entreprise. On pourrait décider de faire baisser les charges salariales drastiquement en disant aux chefs d'entreprise, on vous baisse les charges salariales, mais vous augmentez les salaires d'autant. Et finalement, pour eux, ce serait neutre. Et ça serait une façon de valoriser le travail. Et là, la balle est dans le camp de l'État. Mais je crois que ce serait intéressant de savoir quand même d'où vient cette inflation. Parce que, encore une fois, le Covid a bon dos, l'Ukraine à bon dos, quand vous avez des produits de première nécessité, des fraises ou autres qui sont chères, c'est pas parce qu'elles sont produites en Ukraine. Aujourd'hui, tout est produit en Ukraine. À écouter ceux qui mettent l'inflation sur le dos de l'Ukraine, il faudrait savoir comment nous en sommes arrivés là et quelle gestion, quelle mauvaise gestion a fait que nous en sommes là aujourd'hui avec cette idée de déclassement. Parce que quand on achète très cher et qu'on doit se serrer la ceinture pour des biens de première nécessité, et c'est avoir le sentiment que l'on vit moins bien que ses parents, et c'est ça le déclassement, qui eux finalement ne se préoccupaient pas de ces produits de première nécessité. Moi je remarque qu'on nous disait toujours qu'Emmanuel Macron c'était le Mozart, c'est pas de lui hein, mais ça avait été dit dans je ne sais plus quel journal, le Mozart de la finance, et bien visiblement c'est plutôt le Béla Bartok du déclassement, voyez. Donc on a le droit d'avoir un audit de la situation.
Non, mais sur la question de qui est posée, c'est-à-dire les phénomènes spéculatifs qui sont en mouvement aujourd'hui et qui se servent de la guerre en Ukraine pour c'est très simple. Vous allez prendre une caméra, vous allez aller dans quelques grands ports, à Rotterdam par exemple, et vous allez voir des bateaux entiers qui sont là et qu'on stocke en attendant. Que ce soit en pétrole, que ce soit en matière première. On attend parce qu'on regarde l'évolution des cours. On les fait monter et à ce moment-là, on décharge les bateaux. Ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine.
Voilà. C'est un écran de fumée.
Oui, c'est un écran de fumée. Comme souvent d'ailleurs dans ces mouvements inflationnistes, il y a aujourd'hui des profiteurs, les profiteurs de guerre qui se servent de tout cela parce que, il y a raison, il y a des tas de produits. Je ne savais pas moi que l'Ukraine produisait autant de bouteilles de verre. Hein? c'est une découverte pour moi, mais bon, vous n'avez plus de bouteille de verre de Coca-Cola, parce qu'on vous est, pardon d'avoir cité cette marque, mais parce qu'on vous explique, voilà, on peut citer d'autres, on vous explique qu'il y a une pénurie, je dis, ah bon, c'est une pénurie de quoi? Mmh. On me dit, ah, mais parce que c'est la guerre en Ukraine, je dis, désolé, j'étais député dans l'endroit où il y avait la plus grande production de bouteilles, mmh. C'était dans la ville de Grigny, vous la voyez, cette grande usine, quand vous êtes sur l'autoroute A6, donc c'est pas vrai, il y a une spéculation qui est en cours, qui est terrible. Alors là, il va falloir regarder aussi quel jeu joue la grande distribution, parce qu'il n'y a pas que monsieur Édouard Leclerc qui vient à la télévision pour dire nous on est gentils, on est formidables, on baisse les prix à la pompe.
Il y a c'est un très bon jeu. Communicant, c'est vrai.
Oui, c'est un très bon communicant, mais il y a toute une partie de la grande distribution qui ne joue pas le jeu, je m'excuse de le dire, comme d'habitude d'ailleurs.
En tout cas, malheureusement, il ne nous reste plus qu'une minute d'émission. On va devoir conclure là-dessus. Gabriel Attal, en tout cas, évoque également la motion de censure qui sera déposée par la gauche demain à l'Assemblée nationale. Et c'est notamment ce qui va animer cette journée de demain, notamment sur CNews. Donc restez bien sur notre chaîne demain toute la journée. Gabriel Cluzel, merci d'avoir été avec nous ce soir. Julien Drey également, c'était un plaisir.
On va aller voir les femmes jouer au football, c'est
ça ? Oui, sur Canal Plus, à partir de 21h, le premier match des Bleus dans l'Euro de football féminin face à la Belgique, si je ne me trompe pas, Julien Drey. Face à l'Italie, exactement, pardonnez-moi, la Belgique a joué cet après-midi. Donc allez les Bleus, effectivement, vous y tiendra évidemment au courant du score. Restez bien sur CNews, l'actu continue.